1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission, Le Grand Tout, de retour dans les studios de Canal B après une échappée à Bécherel lundi pour la fête du livre. Vous retrouvez toute l'émission sur canalb.fr, une émission qui aujourd'hui vous permettra de découvrir deux nouveaux albums découvertes pour les radios de Ferrarock. Ce sera Gogo Juice et Tambour Battant en fin d'émission tout à l'heure. On évoquera dans la session Info Concert la fête de la paresse rue de Saint-Malo le 1er mai. Et puis vous aurez droit à une rencontre avec une bonne partie de l'équipe du film d'animation Les Lucioles, qui est montré à Rennes pendant le Festival National du Film d'Animation. Ce sera mercredi, jeudi et vendredi dans la compétition 4 consacrée à l'instinct animal. En tout cas, c'est le nom de cette compétition 4. Il sera question dans Les Lucioles pas mal de ces Radium Girls, ces ouvrières américaines exposées pendant de longue période à du radium contenu dans une peinture qu'on utilisait pour marquer les cadrans lumineux des horloges ou des montres. Avant ça, quelques nouveautés: des Radurion XYZ de Buck Club, Pekim Omes, et puis pour débuter l'émission, Deria, Yildirin et groupe Chimchek. C'est notre nouveau disque d'or de la semaine. Il est sorti depuis quelques semaines déjà, vous en entendiez déjà les premiers singles. C'est le 14 mars dernier que sortait Yalin Yoksa pour l'excellent label new-yorkais Big Crown Records. C'est le label du producteur Leon Mitchells, et c'est un superbe album qui revisite la musique traditionnelle turque, mais dans la façon un peu pop qu'on avait de la pratiquer dans les années 1970 en Turquie, avec des ajouts de jazz, de groove, de musique psyché. C'est toujours parfait, et c'est avec ce titre extraordinaire Dilene que commence l'émission aujourd'hui. Bonne émission.
bar, al die bar, ala, al die bar, hangi tenar, al giriyor. Gözlerden geldi, alacaklarının tam içinden. Parlak bir ışık, tut elimden, nereye demeden. Belki rüyadır, yıldızlara baktım uyumadan önce. Belki de gerçek, veda edeceğim güneş doğarken.
Vous ne connaissez peut-être pas encore celui qui sera peut-être un futur grand nom de la musique turque, le jeune artiste Peki Momes avec Yildiz, une reprise turque d'un morceau brésilien. Oui, c'était le fameux morceau Estrella de Marcos Valle qu'il reprend Peki Momes sur ce single pour le label Mocambo Records. On va complètement changer d'ambiance maintenant, aller du côté du Pays de Galles avec les excellents Bug Club, un nouveau single pour annoncer le prochain album le 13 juin prochain pour le label Sub Pop, alors qu'ils annoncent quelques dates pas mal chouettes sur un tour des États-Unis et du Canada à venir dans les semaines à venir. Vous aurez l'occasion, si vous vous trouvez du côté de Manchester cet été pour le Psyfest, et bien de les voir en live. Ils jouent peu sur le continent, mais quand même, le 13 mai prochain, vous aurez la chance de les voir au Supersonic de Paris, si vous y êtes, et puis au Great Escape de Brighton, festival souvent couru par les programmateurs des Transmusicales, donc peut-être que on pourra voir The Bug Club au Transmusical en décembre prochain. Je m'avance beaucoup, en tout cas, c'est un des meilleurs groupes de rock contemporain qui doivent pas mal au Velvet Underground, hein, sur le morceau qu'on va entendre maintenant, ce titre How to be a Confidante, The Bug Club dans le grand tout.
Lesson one, how to be a confidant. You put on your helmet and pray to any of the gods you heard about on Sundays, and one of these days it'll all belong to you. Amen. The wind blows and the daffodils grow in the borders, bushes and bread bins, and I'm in trouble again. The charity band has lost its middle seat.
Seems they have more in common with the veterans and con men. We're
Peut-être reconnu la voix de Jan Svenonius, ce bouillant leader des Make-up il y a bien longtemps, puis de Escapism, puis de Chain and the Gang. Il est associé à coquiner, on pourrait dire, à Memphis Electronic. Lui, il est niçois. Vous l'avez entendu dans les Dum Dum Boys, martyriser des guitares jusqu'à ce que on entende les sons les plus extrêmes produits par une six cordes associée à une pédale fuzz. C'est XYZ qui joue les classiques des morceaux des Stooges, des Seeds, des Rolling Stones, qui sont complètement transformés, puisqu'on garde le morceau dans sa mélodie, mais on change complètement les paroles. C'était le titre Cut Out Bean. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces fameux bacs où on trouvait des disques au coin coupé, des disques promo, et qui permettaient peut-être à certains fans de rock'n'roll désargenté d'acheter quelques classiques à vil prix. Ça, c'était surtout du côté de la Californie dans les années 1970. Pour tout savoir sur ces fameux coins coupés, vous vous reporterez avec beaucoup d'intérêt, je pense, au bouquin de Philippe Garnier qui porte le même nom. On poursuit avec un tube monstrueux. Oui, oui, c'est tout droit dans la lignée de ce que ESG pouvait faire à la fin des années 1970 à New York. C'est un nouveau titre pour l'américaine Dera Durian, intitulé No, No, Yes, Yes. Et juste après, on parle cinéma d'animation avec une partie de l'équipe du film Les Lucioles, montré à Rennes pendant cette semaine du Festival National du Film d'Animation. Le Grand Tout sur Canal B, une émission que vous avez l'habitude, j'espère, d'entendre. Et si c'est le cas, vous connaissez le programme, des infos musicales, des nouveautés et puis aussi une infoculture. Aujourd'hui, puisque le Festival National du Film d'Animation a commencé, bien on va en parler évidemment avec une partie seulement, hein, tout le monde n'est pas là, mais du monde quand même, quatre personnes de l'équipe du film Les Lucioles. J'ai nommé Loïs Angilella, bonjour.
Bonjour.
Clémentine Gabart.
Bonjour.
Mathieu Staropoli.
Oui, bonjour.
Et puis Léa Fennel.
Bonjour.
Bonjour. Vous trois, vous quatre, oui, vous êtes quatre, qui avez participé à ce film, un film de fin d'études. Vous, êtes tous les quatre fraîchement diplômés, je pense, de l'école ESMA. ESMA, vous la connaissez peut-être pas, cette école, hein, si vous n'avez pas fait de cinéma d'animation ou d'art appliqué. Vous la présentez un petit peu, vous, quelqu'un d'entre vous, vous quatre, pour me dire qu'est-ce que c'est l'ESMA exactement et de quelle ville vous venez ?
Nous, on vient de l'ESMA Montpellier, la première école ESMA qui a été créée. Et donc l'ESMA, c'est un groupe d'écoles d'animation de plusieurs écoles en France qui apporte un savoir assez global sur l'animation, animation 3D, oui.
Voilà, c'est ça, c'est la spécificité de cette façon de le faire, ce film d'animation, c'est qu'il y a pas mal de façons différentes, le stop motion, la prise de vue réelle, donc le stop motion, la 3D. Vous avez choisi la 3D dès le début de votre formation ou c'est la seule formation finalement en animation qui est fournie par l'ESMA ?
Oui, il n'y a pas d'animation 2D qui est enseignée.
Donc c'était vraiment un choix de votre part, ouais. Tous les quatre, ouais. De vous lancer dans la 3D. Alors, avec une finalité vers le cinéma obligatoirement ou il peut y avoir d'autres options, d'autres choix après cette fin d'études là.
On peut travailler aussi pour l'animation pour jeux mobiles, pour la pub, pour même les films prise de vue réelle, parce que du coup il y a de la 3D qui peut être intégrée dedans, donc ça sert à plein de choses.
Oh, tu as perdu ta voix, Léa.
Oui.
On va revenir au film lui-même, parce que c'est un film en 5-6 minutes comme ça qui va nous plonger dans un univers très précis. On est dans le New Jersey, on est en 1922. Vous avez peut-être entendu parler des fameuses Radium Girls, malheureusement fameuses, parce que je pense qu'elles auraient préféré rester anonymes, évidemment. Ça aurait voulu dire qu'elles ne se seraient pas empoisonnées avec de la peinture au radium. Vous avez peut-être vu un film qui était consacré à à ces femmes-là. Une bande dessinée aussi a été faite par l'autrice Si. Une histoire qu'on connaît, finalement, on la connaît, mais vous avez une manière unique, forcément, hein, vous êtes artiste, de nous la faire vivre, cette histoire-là. Comment vous l'avez choisi déjà d'entrer, ce sujet-là, pour un film de fin d'études ? Qui veut parler de ça ?
Et bah, je peux en parler. En fait, c'était... J'ai écouté un podcast, je crois, de France Culture, qui parlait de cette histoire. Et donc, c'est là vraiment le point de départ, en fait, voilà, de l'idée de raconter leur histoire qui a été effacée, en fait. Donc, après, de là, on a décidé de partir sur une fiction. Donc, on a commencé à créer des personnages, essayer de raconter leur histoire.
On suit donc Molly, une jeune employée qui arrive dans l'atelier, qui ne connaît pas encore exactement la manière de bien peindre les cadrans de montres ou d'horloges, on ne sait pas, avec cette peinture-là, une peinture très spéciale, qui est en train de les tuer, en fait, finalement. Donc, on comprend bien que les cadences infernales, déjà, ça peut tuer, mais en plus, on rajoute des produits dangereux, du radium. Donc, on ne connaît pas encore très bien, peut-être, à l'époque, les risques encourus. Une certaine Marie Curie en a fait les frais aussi, hein, c'était de l'uranium, mais bon, je pense qu'elle a été exposée aussi à du radium. Alors, on commence dans un univers qui semble très sombre d'entrée, comme ça, et puis, vous avez choisi quand même d'alléger, de transformer, de décaler un petit peu le regard avec justement un regard qui va se porter vers le plafond de la part de Molly. C'est vraiment l'idée de faire correspondre ces ouvrières avec ces lucioles un peu factices. C'est pas vraiment des lucioles, peut-être on pourrait dire. Ça vous est venu dès le début de ce choix de sujet ?
Oui, en fait, le fait d'en faire une fiction, c'est direct dirigé vers l'idée de faire cette idée du bal et de rendre un moment fantastique, fantasy, avec une magie qui est liée du coup à la phosphorescence, elle-même liée au radium, donc il y a une sorte d'ironie tragique dans le truc, mais c'était dès le départ l'idée.
La danse dans le cinéma d'animation, c'est un très très grand classique. Tous les Disney ont une scène de danse, par exemple, et beaucoup de films d'animation. Est-ce que c'est pas justement un petit peu un peu dangereux de toucher à ce sujet-là, comme ça, de l'aborder de cette manière-là, en se disant, on va forcément être comparé à tous les films d'animation, presque.
Bah, la danse, en fait, c'était pour faire une ode aux vivants et pas à leur mort, et mettre en scène vraiment la joie de vivre, en fait, les années qui leur ont été volées par la suite de leur jeunesse, parce que c'était des femmes qui avaient 22, 23 ans, et c'est souvent des femmes qui travaillaient avant de se marier, et donc elles avaient aussi une indépendance, donc une indépendance financière qui leur permettait aussi de, je sais pas, d'être coquettes, d'aller à leur bal, d'être des femmes libres. Donc le bal, en fait, il avait vraiment plus de sens que juste être une scène agréable, jolie... tout ça, donc c'était important en fait de montrer les femmes dans cet état-là, et surtout que c'est un fait réel qu'elles utilisaient le radium pour se peindre, pour ensuite aller danser le soir. Donc elles travaillaient, elles en étaient fières, on les appelait les ghost girls, et en fait il y avait une poussière de radium dans l'usine qui était tout le temps omniprésente. C'est aussi pour ça que les mouches en fait deviennent des lucioles, parce qu'elles ont de la poudre de radium qui s'est déposée sur elles. Et du coup, la nuit, voilà, elles brillent, en fait, de cette poudre-là.
C'est très beau, hein, cette lueur phosphorescente comme ça, mais évidemment, c'est en train de les tuer à petit feu. Un peu de la même manière que le travail qu'elles ont, elles sont obligées de l'avoir pour survivre, mais ça les tue aussi, évidemment, même s'il n'y avait pas ce radium. Et pourtant, il est là en plus. Alors, évidemment, sous la coupe d'un contremaître, forcément, acariâtre, une sorte d'ogre, hein, comme ça, il est énorme, il arrive avec sa moustache, sa voix très, très, très forte. On sait qu'il est méchant, forcément, mais il a le rôle pour ça aussi, évidemment. Hein. Et puis cette vie qui se déroule comme ça dans l'atelier. Alors, on va entendre un extrait de la bande sonore du film Les Lucioles. Vous avez confié la musique du film à un compositeur, Raphaël Lemonnier. Comment ça se passe, le choix d'un compositeur quand on fait son film de fin d'études à l'ESMA ?
On a eu de la chance parce que le compositeur, on l'a eu dès le début. En fait, j'ai une amie chanteuse dans le Tarn qui m'a emmenée faire des tournées avec elle, et j'ai rencontré Raphaël Lemonnier, qui était très intéressé en fait de travailler avec des écoles d'animation, qui avait déjà essayé de contacter l'ESMA sans réponse. Et quand il m'a rencontré, il était très content. Il avait envie de faire équipe avec des films d'animation, du coup. Et donc, on a eu la musique dès le début. Il avait déjà enregistré des sons typiques des années 1920 en jazz. Donc, il nous les a juste donnés.
Bah, c'est parfait.
Oui, c'est vrai que du coup, dès le début du processus, on avait cette musique qui était à disposition et donc on a pu caler nos danses, nos références d'animation sur ce timing-là, ce rythme-là, et faire notre montage aussi, les coupes, tout ça, dans le rythme.
Alors on va entendre cet extrait d'une musique swing, jazz, forcément propre à la danse et à cette époque du début des années 1920 aux États-Unis. Extrait donc de la bande originale du film Les Lucioles. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez l'occasion de le voir à plusieurs reprises pendant la durée du Festival National du Film d'Animation. Ce sera d'abord ce mercredi au TNB, suivi d'une rencontre avec l'équipe et puis aussi celle des autres films Quand les Chamois se taisent et puis aussi Hope 65. Ça sera montré à nouveau si vous ratez cette séance de mercredi, jeudi et vendredi. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos sur le site du festival. Je mets le lien bien sûr sur la page Le Grand Tout sur canalb.fr. On écoute la musique de Raphaël Lemonnier pour Les Lucioles. Vous l'avez entendu à l'instant, cet extrait, l'extrait le plus joyeux, le plus gai hein, de cette bande originale du film Les Lucioles. Il y a un autre versant évidemment parce que tout n'est pas si lumineux dans la vie de ces ouvrières-là, vous l'avez bien compris, c'est Radium Girls comme on les a appelées. Alors sachez que oui, si elles ont peint quelques cadrans comme ça avec de la peinture irradiée hein, quand même au radium, eh bien ça a duré jusqu'en 1968 l'utilisation de ces peintures-là, même si dès 1927, il y a eu des procès qui ont été lancés. Bon, il a fallu la mort quand même de quelques-unes d'entre elles. Et il y en aura beaucoup plus qui vont mourir par la suite. Alors évidemment, on est frappé d'entrée par le choix que vous avez, par le sujet que vous avez choisi d'utiliser dans ce film Les Lucioles. Mais aussi, ces portées qui vont au-delà juste du divertissement. Évidemment, il y a une réflexion, il y a un côté politique, un regard sur la société de l'époque. Et puis d'aujourd'hui aussi, évidemment, ça éclabousse, je pourrais être tenté de dire avec cette peinture-là. Les conditions de travail sont pas forcément idéales, même aujourd'hui sans le radium. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai vu le film, moi, je vous ai vu aussi, en fait, sans vous connaître, en train de dessiner sur vos tables comme ça, une sorte de mise en abîme un peu. Bon, vous n'avez pas utilisé de produits dangereux.
Non, tout va bien.
Mais est-ce que ça c'était aussi quelque chose que vous aviez en tête, l'idée d'une sorte de petit miroir entre ces personnages qui dessinent comme ça et puis vous-même qui dessinez pas avec la main parce que c'est de la 3D, on l'a dit, mais quand même vous êtes aussi dans un format atelier comme ça aussi.
On est dans un huis clos dans notre salle où on travaille toute l'année, donc c'est vrai que des fois on se demande.
Oui, il y avait cette espèce de ça pouvait être une petite blague qui revenait. De nous aussi, on est enfermés dans ce truc.
On va revenir sur votre poste, vos postes à chacun, chacune. Alors, peut-être que vous avez tous fait la même chose, et puis certains ou certaines ont fait des choses différentes. Bon, Loïs, par exemple, À quel endroit tu te situes, toi, sur toute la réalisation du film Les Lucioles ?
Moi, j'ai participé donc à l'animation. J'ai été aussi dans la production. Avec Léa, on s'est chargé de la mise en scène. Et aussi, j'ai rigué un des personnages.
Alors ça, il va falloir que tu l'expliques pour les non-spécialistes de cinéma d'animation en 3D.
Le rig, c'est la création d'un squelette pour le personnage pour ensuite pouvoir l'animer.
Clémentine ?
Je voulais préciser qu'on a tous bossé sur la pré-production, donc en équipe de 9, on a tous participé au scénario et au concept, donc créer les designs des personnages, de l'usine, etc. Et après, on a délégué, on a laissé la main à 2-3 personnes pour la mise en scène plus poussée, etc. Mais même le storyboard, on était très nombreux à travailler dessus. Et personnellement, du coup, oui, j'ai aussi fait du rig, donc le squelette. J'ai rigué 2 personnages, dont Molly. Et aussi, j'ai fait la modélisation de Molly, donc créer à partir de formes simples en 3D, sculpter, voilà, le personnage. Et après, j'ai aussi travaillé sur les CFX, donc c'est-à-dire les simulations de vêtements des personnages. Et comme nous, on était dans un traitement stop motion, il fallait recréer cet aspect stop-mo très rigide des vêtements qui bougent de façon un peu saccadée.
D'accord, vous faites de la 3D, mais quand même en donnant l'impression que
exactement,
peut-être c'est une prise de vue réelle.
Ouais, c'était notre parti pris visuel, c'était que ça ressemble un peu à des sortes de puppets, ouais, de stop-motion.
Ça marche bien. Mathieu ?
Super.
Alors moi, du coup, bah, comme l'a dit Clémentine, on a tous travaillé sur la pré-production, donc j'ai pas mal travaillé sur le scénario et les concepts, les dessins de personnages. Enfin, plus d'environnement, pour le coup. Et après, en production, en 3D, j'ai travaillé surtout sur la lumière, l'éclairage et les textures. Et aussi tout le traitement en post-production, donc on appelle ça compositing, c'est de la post-prod.
Léa, pour terminer ta participation.
Moi, j'ai travaillé en animation et avec Loïs et Maya, donc les animatrices, on a eu la chance d'avoir des acteurs avec qui on a fait de la direction d'acteurs pour avoir des références d'animation beaucoup plus intéressantes et précises que si c'était nous qui les avons jouées. Et donc, on a pu aussi mettre en scène le film avec des acteurs avant pour aussi s'incarner dans les personnages. Et ça, c'était très intéressant.
Tous les personnages, hein, des ouvrières, du contremaître, bah oui, parlent en anglais parce qu'on est dans New Jersey, on est en 1922, voilà. Et ce sont pas des étudiants ou étudiantes de l'ESMA peut-être qui ont donné leur voix avec un anglais plus ou moins réussi, non. Vous avez directement fait le parti pris de le rendre international, ce film, ce premier film.
Ouais, uniquement le personnage du patron a été doublé par un de nos collègues.
Qui est franco-américain, donc l'accent était quand même authentique.
Ce film, il a été sélectionné à Rennes, forcément, vous êtes ici pour en parler. Aussi dans un festival à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Vous allez le représenter là-bas en personne ou il est juste présent tout seul, le film ?
Et ça fait un peu loin, là, on n'est pas allé.
Non, le film est présent tout seul.
On a Loïs qui est allée au Canada représenter les Lucioles.
Oui, je suis allée au festival Taffy à Toronto pour représenter les Lucioles. Il a été diffusé là-bas il y a une semaine.
Pas eu de prix ?
Non.
Est-ce que c'est ça qu'on vise finalement quand on propose un film de fin d'études dans un festival ? Est-ce qu'on veut être nommé ? Oui, forcément c'est bien d'y être, mais est-ce qu'on veut gagner la palme ou c'est vraiment bien aussi de se confronter à la profession en fait ?
Je trouve que le plus intéressant, c'est ne serait-ce que d'être nominé, parce que ça permet d'avoir une visibilité quand même extrêmement grande et de rencontrer aussi beaucoup d'autres artistes, de réalisateurs qui ont des visions super intéressantes sur l'animation. Et par exemple, on a été aussi sélectionné à un festival à Tokyo, et pas dans une catégorie étudiante, on a été considéré comme un film à part entière. Et ça, je trouve que c'est une reconnaissance qui est déjà assez importante, d'être vu comme juste un film. Et pour moi, c'est le plus important, plutôt que forcément gagner un prix.
C'est un film à part entière, il n'y a pas de souci là-dessus, évidemment. Est-ce que vous avez aussi des envies de diffusion hors festival ? J'imagine que plus on a de spectateurs quand on a fait un travail comme celui-ci, plus on est content, évidemment. Mais vous avez des idées dans ce sens-là ou pour l'instant, il sort de vos cerveaux, il sort de vos ordi et puis il se propose aux spectateurs, aux spectatrices. Est-ce qu'il va être diffusé ailleurs qu'en festival ?
Oui, dans quelques mois, il sera disponible sur YouTube, normalement sur la plateforme de l'école, ESMA.
Et on a Raphaël Lemonnier qui souhaite faire des ciné-concerts. Donc de jouer en live la musique en projetant le film.
Ah oui, pour revenir aux origines finalement du cinéma.
Oui, exactement.
Avant qu'il soit parlant. C'est un film de fin d'études. Vous êtes sur d'autres projets en ce moment, chacun, chacune, en collectif ou individuellement ou avec d'autres individus. Loïs, tu es sur un projet différent ?
Non, on est, je pense, tous à la recherche d'un emploi.
Ouais.
Maintenant, après qu'on ait fini nos études, c'est notre but. Et réussir à rentrer dans l'industrie du cinéma d'animation.
C'est pareil pour vous trois ?
Moi, je suis sur un projet en freelance avec Claire, donc, qui était aussi de l'équipe. C'est un projet de vidéo 3D qui va servir à une étude scientifique d'une étudiante en Suisse, à l'EPFL. Qui fait des recherches sur la neurologie, les rêves, la mémoire. Donc elle a besoin de supports vidéo pour qu'elle va montrer à des patients.
D'accord.
Donc je travaille sur ça. Et après, je pense qu'on est tous un peu sur des projets de films qu'on aimerait réaliser, où on a des choses un petit peu en naissance et qu'on aimerait pouvoir présenter. Mais pour l'instant, c'est du concept, c'est un peu abstrait.
Aussi abstrait pour toi, Mathieu ?
Oui, voilà. Je suis d'accord avec Clémentine et Loïs. Enfin... L'objectif, c'est aussi de trouver du travail maintenant qu'on a fini nos études, mais il y a toujours des projets dans un coin de la tête voilà, qu'on aimerait bien réaliser. Voilà, avec le temps, ça viendra.
Léa ?
Moi, j'ai travaillé un peu en freelance en animation à Mogio, dans une boîte pour jeux mobiles, justement. Et ensuite, j'ai un projet de bande dessinée avec un chercheur de l'INRA sur le paléolithique. Et on aimerait explorer quelques théories sur l'art pariétal. Et les prémices du cinéma, justement.
Vous aurez l'occasion, j'espère, hein, en tout cas, de retrouver les noms de nos invités au générique de production, que ce soit, oui, eh bien, oui, de l'animation, du cinéma, de la bande dessinée, ou tout autre choix de carrière que vous allez faire après ça. En attendant, vous avez l'occasion de le voir, hein, ce film Les Lucioles. Je vous le rappelle, mercredi, programme la compétition numéro 4, Instinct Animal, et vous retrouverez au TNB eh bien, l'équipe des Lucioles, avec aussi les équipes de Hope 65 et de Quand les chamois se taisent. Toutes les infos sur le site du festival, bien sûr, je vous le rappelle. Et pour terminer, peut-être, petite sélection d'un film que vous avez particulièrement aimé dans la programmation, ou vous n'avez pas eu l'occasion de la parcourir complètement, cette programmation-là.
Moi, j'ai eu l'occasion de voir L'ours et l'oiseau, qui est un film de Marie... Bref, Marie, si tu écoutes ça, c'est super. C'est un film d'animation sur une amitié, un lien très fort entre un oiseau et une ours. Sauf que l'hiver arrive, l'ours doit aller hiberner, l'oiseau doit aller migrer, sauf qu'ils ne veulent pas se séparer. Et on va suivre le road trip de l'ours qui va essayer de retrouver l'oiseau. Et c'est une sorte de... Pas de plan séquence, mais presque. Il y a des super longs plans avec des super beaux paysages en 2D, hyper colorés. Mon petit coup de cœur.
Moi, je n'ai pas vu toute la sélection, bien sûr. Enfin, il n'y en a pas beaucoup que j'ai vu, d'ailleurs. Mais il y en a un que j'ai bien aimé, c'est Papillon de Florence Miaille. Voilà. Et donc, il est en plus dans le même programme que le nôtre. Instinct Animal, programme 4. Voilà. Je conseille.
Merci à vous en tout cas, et puis belle route dans le chemin du cinéma de l'animation.
Merci.
On parlait aujourd'hui avec Loïs Angilella, Clémentine Gabart, Mathieu Staropoli et Léa Fainel à propos du film Les Lucioles. On termine avec encore une fois un extrait de la bande originale par Raphaël Lemonnier. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci. Merci. Thank you.
dans la session Info Concert, j'évoquerai le moment tant attendu de tous les habitants de la rue de Saint-Malo et des autres Rennais, évidemment. Cette fête de la paresse qui a lieu jeudi 1er mai. Vous y retrouverez plusieurs scènes, une située entre la Trinquette et le bar de la plage, et puis l'autre qui sera entre le Black Bear et le Doux Jésus. Les Rennais connaissent, évidemment. Ceux qui ne connaissent pas, eh bien, iront jusqu'à la place Sainte-Anne et se laisseront conduire par l'ambiance, par l'odeur des merguez évidemment, et puis par le son des lives, les lives des Last Band in Town. Ils nous viennent d'Angers, ce sont des fans inconditionnels des Clash. Peut-être joue-t-il des morceaux du groupe de Joe Strummer, c'est bien possible, puisqu'il joue Combat Rock, qu'il joue London Calling, il joue pas mal d'aspects différents de la discographie de The Clash, The Last Band in Town. Ils disent carrément qu'ils ne sont pas un tribute band, qu'ils sont le Clash, carrément. Vous les découvrirez, en tout cas, The Last Band in Town à 18h sur la scène Trinquette Bar de la Plage. Ça se terminera cette journée de réjouissance avec Monster Bull and the Bastard. Ça c'est sur la scène Black Bear Doux Jésus, un mélange de Kermesse Party et de Ellie Mitchell, deux DJ qui écument la vie nocturne rennaise. Ils s'associent pour une expérience qui sera à peu près unique, vous n'avez jamais vu ça. Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook de l'événement, et puis retrouvez dans un instant un titre de La Prairie, un duo de mat rock électronique à voir devant la Trinquette et le bar de la plage dès 14h30. Il y aura aussi la scène Black Bear de Jésus qui vous permettra de retrouver les saumons fumés de la chanson de Marin Punk à boire. On écoute La Prairie à voir le 1er mai rue de Saint-Malo. Le titre Galipette Herbeuse, à l'instant par le duo rennais entre mat rock et musique électronique, La Prairie, à voir pour la fête de la paresse rue de Saint-Malo, avec aussi ce jour-là Monster Bull and the Bastard, The Last Band in Town et Les Saumons Fumés. On termine l'émission avec les découvertes faire rock de la semaine. Vous pourrez entendre toute la semaine dans l'émission le groupe normand Go Go Juice qui mélange à peu près tout ce qu'ils ont aimé dans leur vie, de Sonic Youth aux Strokes, en passant par les Kings et puis quelques autres ambiances pop-punk. Vous allez entendre un extrait de l'album Rewind, The After Party de Go Go Juice. Et puis, juste après, eh bien, le fameux duo électro-français Tambour Battant, avec un extrait de leur nouvel album Welcome, riche en collaboration de toutes parts, hein, puisqu'on y retrouve notamment un certain Sir Jean et puis aussi une certaine Marina Happy. Vous les connaissez, ces musiciens et musiciennes-là. Vous retrouvez toutes les infos autour de l'album de Go Go Juice et puis celui de Tambour Battant sur ferrarock.org. Pour terminer le grand tout aujourd'hui, le titre Zazazou dans un instant par Tambour Battant et puis juste avant le titre Turnaround Toy par Go Go Juice. On se retrouve mercredi pour parler bouquin avec Sozy Glebaille et pour parler cinéma d'animation avec encore quelques invités de l'édition 2025 du Festival National du Film d'Animation qui se tient à Rennes toute cette semaine. Ciao. Fade in.
he discovers courage, embracing the light. In a desert of toys where time stands still, the man finds purpose against his will. What have you done to my toys? 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 Downcast in a world of whimsy and make, he learns to mend what hearts forsake. In the desert of toys, a man finds his way. Through trials and wonder, he'll finally stay.